Qui écrit le fait divers? Je me pose la question en lisant ce week-end le formidable récit de Patricia Touranchot sur l'affaire Grégory, la machination familiale. Acculée que je suis, comme tout le monde, par la multitude de nouvelles sordides que l'actualité nous sert, par le destin comme en suspens de la petite Maïlis, par les revers de telle ou telle affaire, qui écrit le fait divers? Est-ce que c'est le journaliste qui documente le réel sous forme de feuilleton aux épisodes toujours incomplets? Le journaliste qui laisse au lecteur, en temps réel, ou même quand des années ont passé d'ailleurs, le soin de mettre de l'ordre et du sens là où il n'y en a pas forcément? Est-ce que c'est la justice ou la police qui semble toujours dépassée dans ses communiqués, qui alimente pourtant l'histoire de possibles toujours renouvelés? Est-ce que c'est le romancier qui parfois s'en empare? Est-ce que c'est pas plutôt une communauté d'écrivains constituée des faits diversiers, de la justice, de la police, mais aussi des lecteurs et autres amateurs? Ce qui me fascine dans ces affaires, c'est moins ce qu'elles racontent ou ce qu'elles révèlent de ceux qui s'en réjouissent que l'origine de leur narration, sorte de cœur tragique, au cœur de l'action mais toujours à côté, en quête du dernier mot, même s'il ne l'a jamais.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Qui mieux que mon invité d'aujourd'hui pour interroger le fait divers comme catalyseur d'écriture et de narration auquel il a consacré plusieurs romans. C'est pour 500 courtes histoires sombres, dérisoires et cruelles que je le reçois ce matin. Il avait publié avec éclat le premier livre du genre. Il y revient 11 ans plus tard à ses micro-fictions dont certaines semblent tout droit tirées d'ailleurs d'une rubrique de faits divers. Bonjour Régis.
Bonjour. Geoffrey.
Merci beaucoup d'être là. Qui écrit le fait divers? C'est une question que j'ai toujours voulu vous poser à vous. À votre avis?
Moi, je me suis occupé de l'affaire Fritzl, surtout. Je l'appellerai un fait divers.
Pour ce roman Clostria.
Et là, je pense qu'on ne sait pas du tout qui pourrait l'écrire d'autre que Joseph Fritzl, parce que c'est quelque chose qui dépasse l'imaginaire d'un romancier.
Ça veut dire que c'est toujours voué à l'échec, en fait, que de la réécrire?
Non, mais je pense que l'histoire elle-même est au-delà de l'imaginaire. C'est-à-dire que si un scénariste d'Hollywood avait proposé une histoire pareille, elle n'aurait pas été acceptée parce qu'elle n'aurait pas été possible. Et là, d'ailleurs, je pense que quand il y a eu des adaptations au cinéma de cette histoire, elles ont été très légères et n'ont jamais été directes. Parce que je pense que c'est à peu près impossible d'infliger aux spectateurs cette histoire. Et d'ailleurs, une fois, dans un salon du livre, j'ai dit à une lectrice, si je n'avais pas écrit ce livre, je ne le lirais pas. Je ne l'aurais pas lu. Donc je lui ai déconseillé parce que...
Déconseillé votre propre roman.
Oui, parce qu'elle me posait la question et c'est un tel cauchemar. Que se plonger là-dedans, c'est en même temps une épreuve. C'est-à-dire que la littérature, parfois, ça peut être une épreuve pour le lecteur, mais pas celle qu'on croit. C'est pas une épreuve d'ennui. C'est-à-dire que le réel, quand il est dans un roman, est peut-être encore plus concentré et plus dense que quand il est dans un article.
La question que vous posez en creux, c'est à quoi nous sert la fiction? Pour vous, Régis Geoffrey, à quelles histoires, à quels besoins surtout est-ce que ça répond?
Je ne sais pas si ça répond à un besoin. Ce que je sais, c'est que la fiction, c'est ce qu'il y a de plus révolutionnaire actuellement.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, j'ai un ouvrage condamné, La bataille de Rikers Island, qui était sur l'affaire du Sofitel New York touchant DSK, que c'est la seule personne au monde qui l'a attaqué pour cette histoire-là. Il a fait d'autres procès pour d'autres choses et que j'ai été condamné. Et le livre aussi.
Il faut bien que le roman soit dangereux pour que ce soit le seul qui le condamne.
Je pense que l'imaginaire est banni au niveau des lois françaises. Je m'explique. C'est-à-dire que dans la loi, on ne permet pas au romancier de s'emparer du réel. Il y a un article de jurisprudence qui dit le romancier n'a pas les mêmes droits qu'un journaliste. Parce que le journaliste est là pour informer et le romancier pour divertir.
Faut-il que le romancier pose en journaliste alors?
Non, mais moi, ce qui m'intéressait dans les trois livres en question, c'était d'aller sur le terrain, voir la réalité des choses. Et je me suis aperçu, par exemple, dans Clostria, que j'ai fait une découverte fondamentale. C'est que je suis le seul à avoir vu les experts acousticiens. Et donc, je suis le seul à pouvoir dire qu'on entendait dans la maison tout ce qui se passait dans la cave. Ça change complètement l'affaire, qui est close de toute façon, mais ça change tout à fait l'affaire, parce que ces acousticiens n'avaient pas été reçus au procès, et leur rapport n'avait pas été cité. Donc parfois, quand on ne cherche rien de particulier, c'est là où on découvre des choses.
Est-ce que vous avez fini par savoir pourquoi vous racontez des histoires?
Ça, c'est les questions fondamentales, et les questions fondamentales, on peut jamais y répondre, on peut pas y répondre plus que pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. C'est une question qui continue à me fasciner. Pourquoi on existe et pourquoi on a cette façon de se voir exister. Et là, c'est un peu la même question. J'ai toujours écrit des histoires quand j'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai commencé, la plupart des gens, je crois, commencent par écrire leurs histoires d'amour ou ce qui leur est arrivé. Moi, ça a été imaginaire à la première seconde.
Ce qui me frappe dans ces micro-fictions 2018 pour lesquelles je vous reçois ce matin, c'est que certaines ont des airs de faits divers. Certaines parce qu'elles tournent en suicide ou en meurtre, d'autres où vous nous présentez des personnages assez désespérés et dont on pressent qu'elles pourraient facilement déraper, comme si tous vos personnages étaient toujours susceptibles de commettre l'irréparable.
C'est là où la littérature intervient pour moi. C'est là où l'origine de la narration, de l'imaginaire se trouve. C'est quand il y a une rupture, quand on va arriver à une situation de crise.
Et alors qu'est-ce qui décide du passage à l'acte ?
Ah, je n'en sais rigoureusement rien.
En vous lisant, je me suis dit le désespoir, peut-être, quand même.
Oui, il y a le désespoir. Il y a la société telle qu'elle est, qui est une société qui est beaucoup plus cruelle que mes histoires, pour le coup.
C'est-à-dire que vos personnages, quand même, présentent des signes de dépression assez graves. De la prof de collège sadisée par ses élèves, dont le seul plaisir est de manger des boîtes de sardines, au transsexuel errant, en passant par le survivant d'un crash aérien, la mère de famille lambda, ou l'adolescente au physique ingrat. Comment vous les choisissez, ces personnages ?
Je les choisis pas, ils viennent tout seuls parce que ce serait impossible à choisir parce qu'il y en avait trop.
Ça veut dire quoi, ils viennent tout seuls, vous les...
J'étais une fois dans une salle où il y avait des lycéens, et ils demandaient comment justement on écrit une histoire. Et j'essayais de l'expliquer, et puis à un moment je leur dis, je devrais le savoir parce que j'ai écrit quand même 500 histoires, micro-fiction, c'était le premier livre qui s'intitulait comme ça.
Il y a 11 ans.
Et je ne sais pas. Et je ne sais pas, et c'est pas du tout une affectation, c'est qu'en réalité, je n'en sais rien, parce que ce que je pense, c'est que dans ces histoires, on arrive à l'os de la narration, et donc on retrouve peut-être la structure originelle du conte.
C'est l'aspect formel sur lequel on reviendra, évidemment. Cependant, il y a 11 ans, le texte s'appelait Microfiction, celui-ci s'appelle Microfiction 2018. En 2018, Régis, elle est où ? La lumière. Qu'est-ce qui vous empêche de sombrer dans le plus complet désespoir ?
Ah, mais moi, je suis pas dans le plus complet désespoir.
À vous lire, on peut se poser la question.
Oui, mais je pense que, moi, l'écriture de micro-fiction en particulier, c'est le bonheur, c'est une sorte de mode de vie, je dirais, d'écrire micro-fiction.
Et je me disais peut-être le rire, en réalité, parce qu'on se marre quand même en vous lisant.
Oui, le rire, c'est une... moi, j'ai l'habitude de rire depuis toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis jamais tombé dans certaines idéologies, comme le maoïsme, par exemple, parce qu'on m'aurait mis dehors, parce que c'était des gens qui ne riaient pas du tout. Il faut s'en méfier beaucoup. Non, mais c'est vrai, toutes les dictatures, on peut les reconnaître au fait que les gens ne rient pas.
J'aimerais que vous nous lisiez l'une de ces micro-fictions, Régis Geoffrey. Une micro-fiction que j'ai choisie, dont le personnage principal est, comme par hasard, un écrivain. Elle s'intitule « Boire un coup ».
Je suis écrivain. J'habite un duplex sous Paris. Pas de fenêtre, mais un aérateur dont la laine maintient, été comme hiver, une température constante de 22 degrés centigrades. Une cave aménagée dans un immeuble en pierre, datant de la fin de la monarchie de Juillet. Ma chambre a été creusée dans les fondations de l'immeuble, une enclave d'une dizaine de mètres carrés à laquelle j'accède par une échelle de corde. Ce matin-là, en émergeant dans le hall d'entrée, j'ai tout de suite reconnu le printemps. La verrière avait été caillassée dans la nuit, le soleil illuminait crûment le carrelage, dont on distinguait les pores et les rayures indélébiles laissées par les escarpins des femmes des années 1950, perchées de jour comme de nuit sur des talons aiguilles à bout ferré. La gardienne frottait le marbre du seuil avec des brosses attelées à ses pieds en pantoufles. « On attend les vitriers !» Elle a soupiré. « Pourquoi s'en prendre à nous ?» Elle avait la larme à l'œil. On aurait dit qu'on venait de déclarer la guerre et de mobiliser ses trois enfants pour servir de bouclier humain. Déjà qu'en janvier, on a mis le feu au local à poubelle, c'était moi. Vous plaisantez trop. Je me suis dirigé vers le boulevard. Partout, des femmes vêtues de coton beige, des enfants en salopettes rayées, des vieillards multicolores avec leurs pulls sans manches, roses pompons, offerts par leurs filles afin de les rajeunir et sur leurs crânes brillants, une casquette écossaise pour achever de donner une touche excentrique à leur fin de parcours. j'avais rendez-vous avec un connard. Vous vous êtes reconnu, l'homme au visage étriqué qui porte des lunettes à la place des yeux et au lieu d'un corps, une espèce de petit costume en flanelle fripé comme une fesse obsolète. Je vous ai entraîné dans les toilettes du café sous prétexte de vous montrer mon sexe, dont vous sembliez curieux en tant que journaliste d'investigation des milieux culturels, et je vous ai précipité la tête la première dans une cuvette. Pour boire un coup, je vous ai abandonné le regard embué. Dehors, le soleil était tombé malade, expectorant ses rayons comme des crachats. À l'autre bout du ciel, une émeute de nuages dépenaillés fondait sur lui. Je suis rentré sous l'orage, les éclairs illuminaient le hall et derrière la porte vitrée de la loge, le visage rougeau de la gardienne flottait comme un piment. Je suis redescendu chez moi. Paris à fond de cale. J'aime ce rafio, ce cargo, ce paquebot. Mais le bonheur, c'est de laisser au reste des hommes la peine de vivre, de danser, de jouer la comédie, d'être au monde et de s'accorder le privilège d'échapper à la corvée en écrivant calfeutré sous les salons, les salles à manger, les fumoirs, les boudoirs où on espère baiser des beautés. À chaque fois que je monte sur le pont, même le soleil me déçoit.
Sérieusement, Régis Geoffrey.
Sérieusement. Bah, écoutez, moi j'aime bien parfois ridiculiser un peu le personnage de l'écrivain. ce personnage très particulier sur lequel on se pose beaucoup de questions alors qu'on ne se pose pas du tout de questions sur le compositeur et sur le peintre. C'est très curieux. Le problème avec l'écrivain en France, c'est qu'on pense que c'est une douleur l'écriture. Alors qu'on n'a jamais pensé que la peinture était une douleur ou la composition une douleur.
On a pu, sur un Van Gogh par exemple.
Oui, mais par exemple sur un Picasso, on lui a jamais posé la question « Pourquoi vous peignez toute la journée ?»
Sur un Jean d'Ormesson, on s'est toujours dit que c'était l'écrivain du bonheur.
C'est vrai, mais vous parlez d'exception là. Mais c'est très bizarre, moi par exemple, moi on me dit parfois « Vous êtes graphomane ». Ben non, je suis écrivain, c'est-à-dire que on admet qu'un peintre soit tous les jours dans son atelier, mais un écrivain, on pense que c'est tellement douloureux et difficile d'écrire que finalement c'est quelque chose, c'est une activité qu'il fuit comme la peste.
En tout cas, vous échappez totalement à ce cliché. Régis Geoffrey, vous prenez d'ailleurs régulièrement position dans des tribunes, mais aussi sur Twitter, où vous vous mettez en scène, et sur Instagram, pour mon plus grand plaisir, je dois l'avouer, vous êtes l'un de mes comptes préférés. De quelle intention, de quel désir est-ce que ça procède, cette mise en scène aussi, de soi ?
Là, c'est pour passer le temps, hein, Twitter, Facebook et Instagram.
Sérieusement ?
Sérieusement. Et si je me photographie, moi, très souvent, c'est que j'ai pas d'autres sujets. Parce que quand je suis seul avec moi-même, je peux photographier personne. En plus, les gens sont pas ravis. Il faut leur demander avant, évidemment. Ils vont pas aimer l'angle sous lequel on les a photographiés. Et donc, moi, je suis un personnage tout trouvé. Et en même temps, quand on me dit c'est du narcissisme, il y a deux réponses. C'est-à-dire que la première, c'est qu'il y a pas de mal à se faire du bien. Et puis la deuxième, c'est que les narcisses ne font jamais de selfies. jamais, parce qu'on est très peu à son avantage sur des selfies. Cherchez vraiment les narcisses et vous verrez qu'il n'y a pas un seul selfie d'eux.
Et puis Twitter, je me disais, c'est aussi la forme courte. Est-ce que ce ne serait pas une variation sur la microfiction ?
Oui, c'est encore plus court. Oui, tout à fait. Il y a une certaine assaise dans le tweet. Mais j'en ai fait beaucoup au début et maintenant j'en fais beaucoup moins de tweets. Au début, je faisais des petites pensées. Et après, j'en ai fait beaucoup moins.
Qu'est-ce que notre époque a changé sur la façon dont vous réagissez au monde et sur votre façon d'écrire ?
Sur ma façon d'écrire, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le monde a changé depuis la première microfiction en 2007. Et ce qui a changé complètement et ce qui a changé radicalement la société, ce sont les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr et certain. Ça a été un bouleversement complet.
Alors, une tension vers la brièveté.
C'est-à-dire que les réseaux sociaux, tout a changé, l'information a changé. Les rapports entre les gens ont changé à des stades qu'on peut même pas imaginer. Je pense que la façon de se rencontrer des gens est complètement différente.
Est-ce que ça influe sur la narration ?
C'est-à-dire que moi, les textes que j'écris dans Microfiction et d'une façon générale sont des textes contemporains. Donc, c'est pas voulu, mais si vous voulez, c'est comme de l'eau qui mouillerait une plage. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. J'ai pas d'opinion, en revanche, sur est-ce que c'était mieux avant ou pas ? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est une catastrophe ou pas ? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu dès le départ. part.
Mais est-ce que c'est réaliste, par exemple, d'écrire un pavé et d'espérer encore être lu dans cette ère de l'urgence?
C'est pas mon affaire. C'est-à-dire que je pense que Mais non, parce que quand on se pose ces questions, on n'écrit pas. Mais c'est dès l'origine. Parce que quand vous commencez à écrire, vous n'avez pas de public. Vous vous prenez pour un écrivain alors que vous n'avez rien écrit. Ce sont des choses folles et complètement absurdes. Donc, je n'aurais jamais écrit.
Comment est-ce que vous l'avez conçu, cet ensemble de micro-fictions? Comment est-ce que vous avez organisé les histoires les unes par rapport aux autres? Parce qu'il pourrait bien s'agir d'un roman.
J'ai pas du tout organisé les histoires. C'est pour ça que le livre est un chaos total et qu'on peut le lire dans n'importe quel sens. On peut commencer au milieu, on peut feuilleter les pages et s'arrêter où l'on le souhaite.
Ça se picore.
Oui, mais moi je l'ai écrit, si vous voulez, d'un seul geste, mais l'ordre qu'il y a eu au bout du compte, c'est l'ordre alphabétique, parce que de toute façon, si j'avais essayé que les textes se répondent entre eux, c'était un travail qui m'aurait occupé tout le reste de ma vie, parce que c'est un travail infini.
Je trouve qu'ils se répondent, moi, précisément parce que ce qui est fascinant, c'est que ces 500 personnages, au fond, vous leur réservez un destin d'autant plus cruel, puisque leur destin finisse par se noyer dans la masse.
Oui.
On va reparler de cruauté, de littérature, de petites et de grandes histoires juste après. Malvina Reynolds tient Little Boxes en 1962. Vous êtes sur France Inter avec Régis Geoffrey. Vous écoutez Boomerang un lundi matin.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ce qui frappe, évidemment, et il le sait, il en joue, il aurait tort de s'en priver, ce sont ses yeux, d'un bleu à faire s'évanouir Isabelle Adjani, et tête la première dans une piscine en pull marine, des yeux de loup, de steppe ou de chien de traîneau qui vous donnent l'envie quasi irrésistible de vous lancer dans une partie effrénée de chat perché, de loup-garou, qui sait, de ballot prisonnier, jeu auquel je tiens de source sûre qu'il excelle mieux que n'importe quel autre romancier publié chez Gallimard. Pas étonnant, quand on voit sa cuisse musclée, comme celle de Jupiter, son pull bleu clair, ce matin, son jean, évidemment, l'écrivain Régis Geoffrey, invité de Boomerang ce matin pour Microfiction 2018, 11 ans après son premier recueil du même genre. Et ce qui attire tout de suite l'attention du lecteur, Régis, c'est cet humour grinçant, cruel, qui rend le destin de vos personnages autant plus dérisoire, désespérant, tragique. Quelle place le bonheur, la gentillesse et la bonté peuvent-elles avoir en littérature pour vous?
C'est très... La place de la bonté en littérature est rare, de toute façon.
Surtout chez vous.
Non, de façon générale, quand c'est vraiment de la littérature, moi je vois Victor Hugo avec ses romans. Voilà, c'est là où on a vraiment, je dirais au sens fort du terme, la pitié.
La grande empathie.
Voilà, l'empathie. Moi je crois qu'il y a une empathie dans mes livres, parce que je pense qu'on peut pas écrire sans avoir une empathie générale. Je le crois profondément et je crois que cette façon d'écrire des histoires, en réalité, on n'est pas tellement habitué peut-être, mais c'est les origines de l'histoire parce que c'est le conte. Le conte est cruel et bien l'avantage. Moi, je suis beaucoup moins cruel que la personne ou les personnes qui ont écrit Le Petit Chaperon Rouge.
Je pense à ce personnage.
C'est une histoire beaucoup plus dure que mes histoires. Moi.
Je pense à ce personnage, comme vous l'écrivez si bien, qui passe ses soirées à enfoncer des aiguilles dans des maquettes d'avions et de bateaux pour provoquer des crashs et des naufrages. Quel malin plaisir y a-t-il à se glisser dans la peau d'une personne méchante ?
C'est surtout désespéré. C'est-à-dire qu'on est dans une société, vous avez des gens qui agissent et qu'on montre en train d'agir. Et c'est très difficile de ne pas être, de ne pas influencer le monde. Parce qu'on ne voit que ça. On voit des gens, on nous montre des gens qui influencent le monde. Même là, on est en train de parler, et de l'autre côté, il y a peut-être des gens qui voudraient parler et qui ne peuvent pas parler. Parce que déjà, le langage, c'est déjà une barrière. Et donc, je pense que tout le monde, ou beaucoup de gens, rêvent d'agir sur le monde. Et peut-être que faire tomber des avions, c'est agir sur le monde de toute façon, alors comme esprit du mal. Mais de toute façon, c'est impossible. En triturant des maquettes, de faire tomber des avions. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un de méchant.
Qu'est-ce que vous rêveriez d'incarner, vous, Régis Geoffrey ?
Ah, c'est amusant votre question, parce que c'est Céline qui dit quelque part, il faut incarner. Quand vous incarnez, même si vous n'avez écrit que 10 pages, vous êtes quelqu'un de respectable. Non, j'ai pas l'impression d'incarner. Ce qui est ma vie depuis des années, en fait, c'est de plus en plus ce côté, c'est la fiction, en fait. Alors, je ne sais pas si je l'incarne, ça serait très prétentieux, il y en a beaucoup d'autres qui l'incarnent, mais c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire, ça m'intéresse beaucoup plus que de remuer des idées, par exemple.
Mais je sais que vous aviez, dans le passé, l'envie d'incarner au sens d'être acteur. Dans quelle mesure est-ce qu'écrire, c'est une façon pour vous de vous faire acteur ?
Bah, c'est-à-dire, c'est la seule, peut-être la seule définition que j'ai trouvée. D'ailleurs, j'aurais pu vous donner cette définition. Comment on écrit? Bah oui, moi j'ai toujours eu cette impression que c'était un acteur qui arrivait sur scène avec une salle comble et qui n'avait pas de texte. Il fallait bien qu'il raconte quelque chose. Et quand vous êtes devant votre ordinateur, et ben en fait, il faut bien que vous racontiez quelque chose pour écrire. C'est-à-dire que l'écriture doit bien se poser quelque part. C'est comme la peinture, elle se pose quelque part. Et il faut une mélodie pour faire une symphonie ou pour faire un morceau de musique. Tout cela désincarné, on ne sait pas du tout ce que c'est.
Parfois, il y a un rôle qui se détache. Lequel est le plus grand pour vous au sein de l'une de vos microfictions, par exemple, un rôle dont vous vous délectez particulièrement, un rôle dont vous vous souvenez?
Les rôles qui me marquent, si vous voulez, parce que j'oublie les histoires assez facilement, c'est les rôles de victimes sociales, justement. Parce que ça me paraît fondamental dans notre société. Et de toute façon, on ne saura jamais. On est trop éloigné des gens qui sont désespérés sur le plan matériel. Ceux qui parlent dans les médias, ceux qui écrivent, on est tellement éloigné d'eux que c'est jamais qu'un écho qu'on peut donner. Un écho imaginaire.
Vous pensez à quoi, là, précisément ?
Je pense à une des histoires où c'est une femme qui amène son enfant à la crèche et on refuse l'enfant à la crèche quand il a plus de 38 de température, ce qui est la réalité. Et un jour, elle force sur le sirop d'oliprane pour faire baisser la température et il y a un incident. Et je me dis qu'il y a toute la pitié du monde au sens hugolien. Parce que, bon, effectivement, on est dans une situation qu'on ne peut pas juger, vu de notre côté à nous.
Et dans quel état vous êtes, vous, quand vous écrivez cette histoire ?
Je ne sais pas si je suis dans un état particulier, parce que vous êtes très occupé quand vous écrivez une histoire. Il n'y a rien qui va. C'est un peu comme une autre activité. Quand vous êtes funambule, vous vous occupez de rien. Vous occupez pas des tours qui vous entourent. Et je crois que là, quand on écrit, moi j'ai l'impression que je pense qu'à écrire, je pense qu'à voir l'histoire. C'est-à-dire que moi, l'écriture pour moi c'est quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire que ce qui caractérise un écrivain de quelqu'un qui l'est pas, c'est que quelqu'un qui l'est pas peut raconter n'importe quoi, on ne voit rien. C'est flou, comme au cinéma quand on n'a pas fait le point de l'objectif. Et moi, mon souci, c'est que ce soit absolument net. que ce soit presque hyper réaliste, qu'on voit ce que j'écris, que les mots correspondent à ce qu'on voit dans le texte.
Vous allez nous faire voir, Régis Loffray, parce que vous nous avez fait un cadeau. Vous allez nous lire et nous révéler une microfiction jamais présentée avant aujourd'hui. J'en tremble d'avance. Alors, un titre ?
Encore la liberté, qui est une microfiction que j'ai écrite avant-hier. Nous ne sommes pas républicains. Nous ne croyons pas plus en Jésus qu'en l'égalité et la fraternité. La liberté, que voulez-vous que nous en fassions ? Nous n'avons pas les moyens de nous en servir. Nous sommes posés ici depuis notre naissance, comme si nous étions assignés à résidence. Nous préférerions qu'on nous mette un bracelet électronique comme à des condamnés, en échange d'un panier garni. De toute façon, chaque soir, nous rentrons directement chez nous, sans jamais passer au bistrot, ni ressortir pour dîner, aller au cinéma, ou boire du champagne dans une boîte de nuit. Elle nous sert à quoi, la liberté ? Nous avons déjà assez de difficultés à vivre dans l'immobilité en payant chaque mois notre loyer. Nous n'avons pas l'argent pour nous offrir des billets de train et des hôtels. Mon mari a traversé un morceau de la France pendant son service militaire. Mais à 24 ans, notre aîné n'est jamais allé plus loin que Vesoul. En 1983, ma mère avait gagné un week-end à Paris à un concours de tricot organisé par Mode et Travaux. Elle m'avait emmené. J'avais 4 ans. Elle raconte toujours que je sautais comme une petite folle dans les rues en criant « Tour Eiffel, Tour Eiffel !» Je me rappelle vaguement des paysages qui défilaient derrière la vitre du wagon. Autrement, je n'ai aucun souvenir de ce voyage. Personne dans notre famille n'est jamais monté dans un avion. Avec mon mari, nous nous disions souvent que nous pourrions aller jusqu'à Dunkerque. Nous montrerions la mer aux enfants. Nous montrerions la mer aux enfants et je la verrai moi aussi pour la première fois. Il faut compter 7 heures de voiture. Pas question de faire l'aller-retour dans la même journée. On emprunterait une tente et on camperait la nuit sur une plage. Jusqu'à présent, nous nous contentons du plaisir de tourner ce projet dans tous les sens comme un nectar qu'on agiterait dans son verre sans oser le boire. Le droit de grève ? À l'usine, on a débrayé 2 heures en 2013 pour qu'on rallonge de 10 minutes le temps du déjeuner. On nous a défalqué une demi-journée entière sur notre paye. Pour nous rabattre notre caquet, à la fin de l'année, la direction a même supprimé la pause de 16 heures sous prétexte que rien ne l'obligeait à nous l'accorder. Sans compter le licenciement punitif d'un délégué du personnel pour des fautes imaginaires. Nous avons compris la leçon. La liberté d'expression. Encore la liberté. Votre liberté d'expression, nous sommes d'accord pour vous l'échanger contre 50 euros d'augmentation. Nous ne sommes ni acteurs ni journalistes. Personne ne nous interviewe ni ne nous propose d'écrire des éditoriaux. Votre liberté d'expression, c'est à peine si on s'en sert dans la cuisine pour insulter le président de la République quand il se montre à la télévision. D'ailleurs, les fenêtres sont fermées et personne ne nous entend.
Merci infiniment, Régis Loffray, d'être venu faire un tour dans cette émission. Microfiction 2018 est publiée chez Gallimard, sort jeudi en librairie. Je précise également que vous serez le 17 février à la Maison de la Poésie pour parler de votre livre, une institution que l'on salue au passage. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, l'Instant M, juste après ça.
C'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats regardent à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Thank you.
patriote. Il se moque, gens d'honneur, tels honneurs. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelles raisons bizarres, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là après tout. Il jouait du piano debout. Il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup. Sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui.